Merci pour ces exhortations qui font du bien. Alors, j'aimerais avec vous ouvrir la Bible ce matin, quoiqu'elle a déjà été ouverte, dans l'épître de Paul aux Galates et au chapitre 1. L'épître de l'apôtre Paul aux Galates et au chapitre 1. Si vous n'avez pas l'habitude avec la Bible, vous avez les évangiles, puis après vous avez les actes des apôtres, puis vous avez l'épître aux Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens et Galates. Voilà, et on va prier. Seigneur, merci pour ta grâce et ta bonté envers chacun. Merci Seigneur parce que toi tu soutiens toutes choses par ta parole puissante, Seigneur. Tu es avant toutes choses et toutes choses subsistent en toi, Seigneur. Et nous-mêmes aujourd'hui, nous subsistons par ta grâce ainsi que toute ta création, Seigneur. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci parce que toi tu es le véritable Seigneur. Tu es venu dans ce monde pour sauver les pécheurs, Seigneur, et comme disait l'apôtre Paul, dont je suis le premier, Seigneur. Et nous voulons te remercier pour cela et pour ta bonté, Seigneur, envers nous. Amen. Voilà, nous ouvrirons donc nos Bibles dans Galates, si ça n'est pas encore fait. L'épître de Paul aux Galates, et nous lirons au chapitre 1 de cet épître. Donc, pour beaucoup de visages familiers, aussi d'autres un peu moins familiers. Et, je dois dire, c'est une grande responsabilité de porter la parole de Dieu. Il y a déjà tellement de bonnes choses qui ont été dites, donc on prie vraiment que Dieu bénisse sa parole. Allons donc lire au chapitre 1. Donc Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qu'il a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi, aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Trois ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu du visage des églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait de détruire, et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. » 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens, je l'exposais en particulier à ceux qui sont plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. » Voilà, et nous allons nous arrêter là. Et donc c'est ici une épître de l'apôtre Paul. Alors vous avez peut-être ça dans vos Bibles et vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce que c'est une épître? Bien, et une épître, c'est une lettre, simplement. Nous avons dans la langue française le mot épistolaire, et une épître, eh bien, c'est simplement une lettre. Une lettre adressée à un groupe de personnes. Nous avons donc ici une épître de l'apôtre Paul. Dans l'Évangile, dans la Bible, nous avons d'autres textes. Nous avons des chroniques. Par exemple, nous avons les chroniques des rois d'Israël. Nous avons des textes des prophètes d'Israël. Nous avons bien sûr la loi de Moïse. Dans l'Ancien Testament, il y a aussi d'autres types de textes. Et puis, quand on avance dans la Bible, on trouve le Nouveau Testament avec les évangiles, les actes des apôtres et ici les épîtres. Et beaucoup de ces épîtres ont été écrites par cet homme, l'apôtre Paul. Et que veut dire le mot « apôtre » Eh bien, il veut simplement dire « envoyé ». Et donc, l'apôtre Paul était un apôtre de Jésus-Christ. Il était envoyé par Jésus-Christ. Avec cependant une petite particularité, peut-être même que c'est une grosse particularité, et c'est ce qu'il nous dit ici, c'est que lui, contrairement aux autres apôtres de la Bible, eh bien, il n'avait pas vécu, il n'avait pas cheminé auprès de Jésus-Christ. Mais il nous dit ici que c'est par une révélation directe de Christ qu'il a eu connaissance de l'Évangile. Et en effet, s'il y a bien quelque chose qui est nécessaire pour avoir connaissance de l'Évangile, eh bien c'est d'en avoir la révélation. C'est que Dieu parle à nos cœurs et qu'il se révèle directement à nous et à notre âme. Il y avait quelque chose d'encore plus particulier chez l'apôtre Paul, quand il a eu cette révélation, eh bien c'est que cette révélation n'était pas encore écrite. Et Dieu s'est clairement choisi des personnes, a clairement choisi des témoins pour mettre cette révélation par écrit. Et c'est ce que nous avons ici, et c'est ce que nous appelons l'Évangile, c'est ce que nous appelons la Bible. Donc l'apôtre Paul a reçu cette révélation de Jésus-Christ. Il y a Dieu qui lui a parlé. Et nous avons besoin aussi aujourd'hui que Dieu nous parle. Et si Dieu ne nous parle pas, si nous n'avons pas cette révélation de Jésus-Christ, eh bien, il y a très peu de chances que nous le connaissions. Nous avons besoin que Dieu parle à nos cœurs. Nous n'avons pas besoin d'écrire autre chose. Dieu ne va pas se révéler aujourd'hui à quelqu'un pour compléter la Bible. mais nous avons besoin que Dieu parle à notre cœur et à notre âme pour montrer que Christ vraiment est vivant aujourd'hui et qu'il peut intervenir et changer les cœurs. Et en dehors de cela, eh bien, il n'y a pas de vraie religion. Il peut y avoir des efforts de l'être humain, il peut y avoir des efforts même chrétiens, il peut y avoir toutes sortes de choses, mais en dehors de cette révélation de Dieu dans un cœur, eh bien, il n'y a pas de véritable religion, il n'y a pas de véritable connaissance de Christ. Et c'est quelque chose d'absolument nécessaire. On pourrait prendre dans l'évangile de Jean au chapitre 16, au verset 5, il nous est dit « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé ». Donc c'est Christ qui parle à ses disciples. Il dit « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu ?» Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. » Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, en ce qui concerne la justice, parce que je vais à mon Père, et parce que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Puis au verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Christ, quand il était sur la terre, Jésus-Christ, ne parlait pas de lui-même, mais il parlait selon ce que le Père lui donnait de dire. Et c'est bien cela, être un chrétien, c'est faire exactement ce que Dieu nous dit de faire et dire ce qu'il nous donne à dire. Et si l'on n'a pas ça dans notre vie, si l'on n'a pas Christ qui est dans notre vie et Christ qui nous remplit, eh bien en fait, on passe complètement à côté de ce qu'est la vie chrétienne. Si Christ n'est pas en nous, eh bien nous ne connaissons pas. Nous ne savons pas, finalement, ce qu'est la vie chrétienne. S'il ne nous remplit pas, eh bien, nous passons à côté de l'essentiel, parce que c'est lui qui est l'essentiel. Et en dehors de lui, il n'y a rien. Il n'y a pas de vie chrétienne. Il peut y avoir des formes, il peut y avoir des habitudes, il peut y avoir des consécrations, il peut y avoir des baptêmes, il peut y avoir beaucoup de choses. Mais si Christ n'est pas là par son Saint-Esprit, eh bien il n'y a en fait rien du tout. Rien de valable, rien qui ne vienne de Dieu, rien qui ne puisse durer, rien qui ne puisse faire face un jour au jugement de Dieu. Il n'y a que ce que Christ met dans un cœur qui pourra un jour faire face au jugement de Dieu. Il n'y a que ce que Christ a fait qui tiendra. Dans les évangiles, Christ a dit « Toute plante que mon Père n'a pas plantée, eh bien, sera arrachée. » Et effectivement, tout ce qui n'a pas été planté par Dieu lui-même, bien cela sera arraché. Et posez-vous la question ce matin, est-ce que Dieu lui-même m'a planté? Est-ce que Dieu est vraiment celui qui m'a engendré à la vie? Est-ce que c'est vraiment lui qui m'a amené à Jésus-Christ? Est-ce que c'est lui qui a changé mon cœur? Est-ce que c'est à lui que je rendrai des comptes au dernier jour? Ou alors est-ce que je suis l'esclave de quelqu'un d'autre? Peut-être d'un autre système, d'autres personnes? Est-ce que je peux dire, comme disait l'apôtre Paul, je suis serviteur? Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Est-ce que je peux dire je suis serviteur de Christ? J'essaye de plaire à Christ. Et c'est à lui que je veux plaire et non pas aux hommes. Et c'est à lui que je rendais compte. Et Paul écrivait cette lettre à des personnes qui avaient bien commencé dans leur vie chrétienne, mais qui, quelque temps après, eh bien, malheureusement, avaient commencé à être séduits, avaient commencé à faire fausse route. Et si vous avez gardé un doigt dans l'épître aux Galates, vous pouvez regarder tout au début de chapitre 3, c'est simple à trouver, le début du chapitre 3. Donc dans Galates, il est dit, « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié ?» Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui donc qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Et donc on va s'arrêter là. Mais simplement les Galates, ces chrétiens qui étaient d'origine païenne. Je ne sais pas si vous savez où est la Galatie. La Galatie, c'est une région qui existe encore aujourd'hui et qui, à l'époque, bon, aujourd'hui, à ma connaissance, ça ne s'appelle plus la Galatie, sauf erreur de ma part. Mais la Galatie, si vous devez le mettre aujourd'hui sur une carte, eh bien, c'est la Turquie. C'est en Turquie, c'est une région de la Turquie actuelle, c'est au nord de la Turquie. Et à l'époque de l'apôtre Paul, on appelait ça l'Asie mineure, il y avait plusieurs provinces, et l'apôtre Paul a beaucoup séjourné, il a beaucoup voyagé dans ces régions, et donc il a même été dans cette région appelée, dans l'Empire romain, au 1er siècle de notre ère, appelée la Galatie. Et il semble que ces personnes, les Galates, étaient même des personnes d'origine celte, en fait, qu'il y aurait eu auparavant, en fait, une invasion, une légère invasion des Celtes dans cet endroit. Mais bon, ça n'est pas très important. Mais ce qu'il y a de clair, c'est que ces personnes étaient ce qu'on appelle à l'époque des païens. Ils n'étaient pas des juifs. Mais ces personnes ont entendu, lors d'un voyage de l'apôtre Paul, ils ont rencontré l'apôtre Paul, ils ont entendu Paul qui prêchait l'Évangile, qui parlait de Jésus-Christ. Paul dit ici que Christ avait été dépeint comme crucifié à leurs yeux. Alors l'apôtre Paul, il n'a pas fait un sketchboard en dépeignant Jésus-Christ. Il n'a pas fait un dessin a priori non plus. Ce n'était pas Picasso ou un autre peintre. Mais par ses paroles, il leur a décrit Jésus-Christ comme crucifié. Il leur a décrit que Jésus-Christ était mort pour leurs péchés, qu'il avait souffert pour eux, pour leurs péchés, comme pour les péchés de tant d'autres personnes dans ce monde, qu'il avait porté le châtiment qui devait tomber sur eux, que la malédiction qui devait tomber sur eux, eh bien que c'était lui, Jésus-Christ, qui l'avait porté. Et Paul leur a dépeint Jésus-Christ comme crucifié, et ces personnes ont visiblement compris. Ils ont compris cela. Ils ont compris qu'ils étaient pécheurs, ils ont compris qu'ils étaient coupables devant Dieu, et ils ont surtout compris qu'ils devaient faire demi-tour. Parce que s'ils continuaient dans la direction où ils marchaient, eh bien ils continuaient à s'éloigner de Dieu, et ils s'avançaient vers une éternité sans Dieu. Pour reprendre les termes de l'Évangile, la Bible dit « large est le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là, et étroit et resserré le chemin qui mène à la vie. » Et ces personnes ont fait demi-tour, ils se sont repentis, ils ont demandé pardon pour leurs péchés, ils se sont tournés vers Christ. Ils ont dit « mais maintenant je veux croire en Christ et je veux le suivre, et je veux vivre pour lui. » Et voilà, l'apôtre Paul ne pouvait pas rester dans ses contrées, il était appelé ailleurs, dans d'autres villes qui sont mentionnées dans la Bible, comme Corinthe, Thessalonique, d'autres endroits où Dieu l'appelait, il ne pouvait pas rester. Et quelque temps après, il y a des personnes qui sont passées par là, des croyants d'origine juive, et qui ont dit à ces jeunes chrétiens, ces Galates, « Ah oui, vous avez cru en Christ, oh, ben c'est fort bien. Mais vous savez maintenant, bien vous devez vous faire circoncire. Vous devez vous faire circoncire selon le rite de Moïse. » Et malheureusement, eh bien, ces jeunes croyants, ces jeunes Galates, eh bien, se sont laissés impressionner, se sont laissés fascinés par ces prédicateurs, et ils ont cru qu'effectivement, ils devaient être circoncis ou participer à différents rituels qui venaient de la religion juive. Et nous pouvons lire au chapitre 2, nous avons déjà lu un peu au chapitre 2, excusez-moi, un peu de mal à trouver mon passage. Bon, chapitre 2, donc je reprends ici. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens, et je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire, et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant, et nous leur résistâmes, et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile ne fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Bon, je ne vais pas tout lire, mais il y avait ce problème d'un mélange que ces prédicateurs d'origine judaïque voulaient faire entre l'Évangile et l'Ancien Testament. Vous savez, dans la Bible, il y a deux parties. Il y a ce qu'on appelle l'Ancien Testament, qui est une loi que Dieu a donnée à Moïse de manière temporaire et de manière préparatoire, où Dieu avait choisi cette nation d'Israël, il avait choisi particulièrement ce peuple, il s'était révélé à eux et leur avait donné une loi. Une loi qui, de bien des manières, était bonne, mais qui était surtout préparatoire, qui était préparatoire de la venue de Jésus-Christ. Et ce rite de la circoncision, bien de bien des manières, il devait anticiper ce que Dieu ferait dans un cœur humain. C'est qu'il ôterait le cœur de chair, il ôterait le cœur de chair, pardon, le cœur de pierre, et il mettrait un cœur de chair, qu'il changerait profondément à quelque chose. Et donc toute cette loi de Moïse était préparatoire pour amener à Jésus-Christ. Et le problème, eh bien, c'est que ces Juifs qui étaient peut-être bien intentionnés, ils voulaient ramener ces croyants, ces jeunes croyants, à ce qui était préparatoire. Alors je ne sais pas ce que penserait notre frère si on voulait lui ramener des élèves de lycée au cours préparatoire. Mais ce ne serait pas possible, ils ne seraient pas à leur place. Et ces Juifs bien intentionnés, certainement bien intentionnés, mais qui ne comprenaient pas ce qu'était l'Évangile, ils voulaient ramener ces croyants à ce qui finalement n'était là que pour préparer la venue de Jésus-Christ. Et ainsi ces personnes allaient perdre Jésus-Christ, ou en tout cas ils allaient s'en éloigner pour revenir à des rites, des observations dont la Bible dit qu'elles sont les ombres des choses à venir. Et c'est un grand danger pour nous, eh bien, de rester avec ce qui est ce que la Bible appelle les ombres, plutôt que d'avoir la substance. Et la substance, c'est quoi? Mais c'est Jésus-Christ. C'est que Jésus-Christ vive dans notre cœur, qu'il transforme notre cœur, qu'il nous donne de sa force, qu'il nous donne de sa vie, qu'il nous donne de sa joie, qu'il nous donne de sa liberté. Parce que lui, il est l'être humain parfait, il est l'homme parfait. Et quand il est dans notre cœur, quand il vit en nous, eh bien nous sommes pleinement libres. Et les Galates s'étaient laissés impressionner, ils s'étaient dit, ah mais, oui, peut-être quand même qu'on doit passer par la circoncision, et peut-être aussi par d'autres ablutions rituelles du judaïsme et d'autres observances. Ils étaient dans le doute. Et Paul leur dit, il ne faut pas être dans le doute. Il ne faut pas douter de Jésus-Christ et il ne faut pas douter que Christ soit entièrement suffisant. Et si vous êtes dans le doute, vous êtes mort. Quasiment. C'est quasiment ce qu'il leur dit. Et il leur dit au chapitre 5, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est par la foi que nous attendons par l'esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Et il leur ajoute, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous courriez bien. Et ces gars-là, ils couraient bien et ils avançaient avec Dieu. Puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui s'est mis au bord de leur chemin et qui leur a dit, stop, attention, vous oubliez quelque chose. Et en fait, ils n'avaient rien oublié. Ils n'avaient rien oublié, ils suivaient Christ. Et j'aime cette parole juste avant verset 6 qui dit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. La foi qui est agissante par la charité. Et vous savez, les commandements de Dieu sont quelque chose de merveilleux. Les commandements préparatoires à la venue de Jésus-Christ sont merveilleux. Mais les commandements qui nous disent de nous attacher à Jésus-Christ lui-même, qui nous disent de vivre avec Christ, eh bien, sont tout aussi merveilleux, n'est-ce pas? Et les commandements de Dieu peuvent se résumer par un seul mot, l'amour. Dans l'Ancien Testament, c'est vrai. Je dirais tout autant dans le Nouveau Testament. Et ce que Dieu nous demande, et ce que Dieu demandait à David, à Moïse et à tous les autres, eh bien, c'était d'aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force, et leur prochain comme eux-mêmes. Seulement, il y avait certaines dispensations, je dirais, certaines choses qui étaient un peu différentes dans l'Ancien Testament, qui étaient préparatoires, pour nous amener à toute la liberté que nous avons en Christ d'aimer Dieu et notre prochain. Et nous sommes libres en Christ d'aimer Dieu et notre prochain. Et j'aimerais lire avec vous une parole dans un psaume, dans le psaume 119. Psaume 119. Psaume 119. On va lire à partir du verset 89. Psaume 119, verset 89, à partir du verset 89. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui. Le Nouveau Testament nous dit, toute chose subsiste en Christ. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elle que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Et celui qui, dans l'Ancien Testament, faisait de la loi de Dieu, même dans son caractère préparatoire, mais celui qui, dans l'Ancien Testament, faisait de la loi de Dieu ses délices, il arrivait très rapidement à Jésus-Christ, par anticipation, mais il arrivait à Jésus-Christ. Sans le voir physiquement, mais il l'anticipait par les commandements de Dieu, il l'anticipait par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu, et il le percevait certainement de bien des manières à travers l'Écriture, comme on voit le roi David. Oui, celui qui s'attachait à Jésus-Christ, celui qui s'attachait à Dieu et à ses commandements, trouvait Jésus-Christ. Car quelque part, c'est déjà s'attacher à Christ. Car Christ est, il est toute chose, je dirais, il est la parole de Dieu. Il est celui qui prépare, il est celui qui vient aussi. Et j'ai été très interpellé, c'est la semaine dernière, je pense, par le verset 96. Donc on voit dans ce psaume cet homme qui cherche Dieu, qui aime sa loi, et qui vient quelque part, qui goûte déjà quelque part à Dieu réellement. Et qui dit au verset 96, « Je vois des bornes à tout ce qui est parfait, tes commandements n'ont point de limite. » Et s'il y a bien une chose véritable des commandements de Dieu, c'est qu'ils n'ont point de limite. Et celui qui a compris ça, je crois, a compris une grande chose. Les commandements de Dieu, en particulier le commandement, si on le résume par le fait d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, son prochain comme soi-même, eh bien c'est quelque chose qui n'a pas de limite. On n'a pas besoin de limiter les commandements de Dieu à 5 ordonnances, ou à 10, ou à 20, ou à 100, ou à 613. Non, c'est quelque chose qui n'a pas de limite. C'est quelque chose qui est illimité. Vous allez me dire comment. Je crois que je vais essayer de vous l'illustrer par un passage du Nouveau Testament, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 12. Chapitre 12 de l'Évangile de Matthieu, verset 9. Il dit, étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue, et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pas pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main, il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre. Est-il permis de faire du bien le jour du sabbat? Et le commandement de Dieu, les commandements de Dieu, quel que soit leur cadre, que ce soit le cadre de l'Ancien Testament, que ce soit le cadre du Nouveau Testament, les commandements de Dieu, j'ai envie de dire le commandement de Dieu, consiste à faire du bien à notre prochain et à aimer notre prochain. Est-ce que cela a une limite? Non, c'est quelque chose qui n'a pas de limite. Pharisiens limitaient les observances de Dieu à quelques commandements qu'ils avaient choisis. Et Christ leur a dit, mais je prends plaisir, si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Je prends plaisir à la miséricorde. Et aimer son prochain comme soi-même, c'est quelque chose d'illimité, d'absolument illimité. Ça n'est pas simplement venir à l'église le dimanche ou faire telle ou telle bonne action. Mais voilà, et j'ai terminé. Non, c'est une manière de vivre. C'est une manière de vivre illimitée. Être chrétien, vivre en Christ, avoir Christ qui vit en nous, c'est une manière de vivre illimitée, qui se répète sans arrêt, qui se renouvelle sans arrêt. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Mais tes commandements ont une ampleur sans limite. J'en vois sans cesse des applications et sans cesse de nouvelles applications. Tu honoreras ton père et ta mère. Mais comment est-ce que je peux honorer mon père et ma mère? Ça n'a pas de limite. Chaque jour, il y a de nouvelles manières d'honorer son père et sa mère. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Chaque jour, il y a de nouvelles manières de ne pas convoiter la femme de son prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mais chaque jour, il y a de nouvelles manières d'aimer son Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Et cela était vrai sous l'ancienne alliance et cela est vrai sous la nouvelle alliance. En Jésus-Christ, dans la plénitude que Christ nous donne, quelque chose qui se renouvelle sans cesse. Dieu nous donne un cadre, et en Jésus-Christ, il nous donne un cadre formidable pour aimer Dieu et pour aimer notre prochain. Et voilà le problème des Galates. Eh bien, c'est qu'ils étaient en train de fonctionner hors cadre, je dirais, hors du cadre de ce que Dieu leur avait donné. Ils étaient en train de revenir au commandement de l'ancienne alliance, à ce qui était préparatoire. Et Paul leur a dit, surtout pas, vous vous arrêtez et vous vous remettez sur le bon chemin et vous reprenez la route telle qu'elle doit être la vôtre en Jésus-Christ et conduite par Jésus-Christ. Voilà, au verset 21 du chapitre 1 de Galates. Paul dit auparavant, verset 13, il dit, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et je ravageais l'église de Dieu. Parce que Paul ne savait pas à ce moment-là. Il ne savait pas. Il ne comprenait pas quel était le plan de Dieu. Il était à côté. Il était à côté du plan de Dieu. Puis Christ l'a rencontré sur le chemin de Damas. Et Paul a été celui qui a parcouru les contrées de la Syrie, de la Cilicie, et qui a été un peu partout dans le monde de son époque, parce qu'il voulait prêcher cet évangile qui délivre en Jésus-Christ et qui permet de connaître Dieu. Alors j'espère ce matin que vous connaissez Dieu, que vous êtes venu à lui. Voilà, que vous êtes venu à lui. Si quelqu'un est en Christ, nous dit la Bible, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues neuves. Voilà, j'espère que vous êtes à Christ et que Christ est à vous ce matin. Que Christ vit en vous par la foi et que votre foi est agissante par la charité.